Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Une fois passé le portail métallique, vous arrivez dans un hall d'immeuble en piteux état. Les murs étaient déjà couverts de graffitis, mais maintenant des impacts de balles en criblent la surface et des corps jonchent le sol. Il y a une porte d'ascenseur, mais celui-ci est bien entendu hors service du fait de la coupure de courant. Un escalier monte vers les étages et vous pouvez entendre des cris et des coups de feu qui en proviennent. Il semblerait que des membres des Bloods aient réussi à faire reculer les assaillants de quelques étages dans l'escalier et que vous arriviez pour les prendre à revers.
Alors c'est très simple, Anna va observer les membres du groupe qui sont, on va dire, plus qualifiés qu'elle pour initier une tactique. Donc Christopher et Desmond.
Lydie va regarder Hélène.
Est-ce que certains d'entre vous activent des pouvoirs ?
Alors, rapidité, c'est utile en défense, faut peut-être que je l'active.
C'est à toi de voir. Là, on est dans une scène, et le pouvoir, de toute façon, va durer toute une scène.
Effectivement, bah je l'active.
Donc tu vas faire un jet de soif.
Alors, c'est bon.
Donc c'est une réussite, la soif d'Anna n'évolue pas. Quand elle se concentre pour faire usage de sa célérité, Anna sent comme si ses muscles étaient animés d'un sang puissant. Et elle a vraiment l'impression que ses réflexes, sa précision sont démultipliés comme si tous les gestes qu'elle faisait, elle les faisait un petit peu au ralenti et qu'elle pouvait ajuster ses mouvements. C'est une expérience qui est toujours un petit peu grisante. Bien qu'elle soit pas forcément experte dans cette discipline, c'est quelque chose qui la rend extrêmement rapide, beaucoup plus qu'elle l'aurait été de son vivant. Là, notamment, elle pourrait probablement prendre Usain Bolt au 100 mètres, mais en plus, ça lui donne des réflexes surhumains et ça ajoute des dés à tous ces jets liés à la dextérité.
Du coup, vous verrez qu'Anna est en train de faire tournoyer son couteau et de jongler avec. En mode, ah oui, tiens, c'est assez sympa.
Est-ce qu'Hélène active un pouvoir, elle, du coup ?
Bien sûr, arme bestiale, c'est le moment.
Très bien, donc tu vas me faire ton jet de soif.
Non !
Donc la soif d'Hélène augmente.
Ouais, j'étais à 1, donc je passe à 2.
Quelles armes bestiales elle développe ? Parce que du coup, c'est un petit peu au choix. Tu peux soit développer des espèces de serres, soit des dents type dague, comme un serpent.
Mais la réponse, mon cher, est « why not both ?»
Donc, en activant ce pouvoir, Hélène, maintenant, a un bonus de plus 2 à ses dégâts de bagarre. Et en plus, ça inflige des dégâts aggravés aux mortels, comme des armes à feu ou des armes létales. Et par contre, ce qui est intéressant surtout, c'est quand tu affrontes des descendants, les dégâts ne sont pas divisés par deux par la constitution mort-vivante. Donc, ça peut faire des dégâts assez sérieux. Ulysse a découpé mon pauvre membre du sabbat en deux attaques, c'était pas vraiment prévu comme ça.
Du coup, Hélène, elle va pas forcément rester trop en arrière, elle va pas aller devant, mais genre si elle peut aller à côté de Desmond, ouais. Ça lui va bien. Parce que son objectif, en fait, vu qu'elle, elle a pas d'arme à distance, c'est en gros, s'il y a baston, qu'elle puisse très rapidement courir et sauter dans la gueule des gens avec ses armes.
Très bien. Comment vous procédez dans votre avance ? Donc, Hélène, elle, reste un petit peu en retrait, mais prête à passer à l'assaut s'il y a besoin. Desmond, lui, équipé comme Christopher d'un fusil à pompe, va plutôt se porter vers l'avant. Mais il attend de voir ce que Christopher propose, en quelque sorte.
Lydie reste derrière Hélène.
Christopher, il va essayer de voir s'il y a un moyen de monter les étages sans se faire remarquer. Une autre cage d'escalier, par exemple.
Il semblerait qu'il n'y ait que cette cage d'escalier et l'ascenseur.
Mais qui est hors service. Après, on peut peut-être passer par l'ascenseur s'il y a des gens qui sont adeptes de la grimpette.
Alors, si vous vous sentez agile, c'est probablement possible d'ouvrir la cage d'ascenseur et de monter comme ça. Il me semble qu'il y a des échelles à l'intérieur sur les ascenseurs comme ça. C'est juste faire attention à pas tomber et puis monter après.
Ah bah voilà.
Oh, Bon, bah du coup, j'imagine que Christopher va pointer la cage d'ascenseur pour que Desmond soit prêt à le couvrir et il va montrer qu'il va ouvrir, pointer, puis vérifier que la cage d'ascenseur est vide.
Alors, je pense que Christopher, avec son 2 en force, va peut-être demander à Desmond d'ouvrir à sa place.
Ouais, éventuellement, si Desmond a l'air d'avoir l'habitude.
Desmond a l'air beaucoup plus costaud que Christopher, ouais. En tout cas, physiquement, de sa vie mortelle, Desmond a gardé bien 100-110 kilos et fait environ 1m90. Il a l'air plus costaud que Christopher, en tout cas.
Ah bah ça va, ouais.
Et tu te dis que si c'est un enfant de Balthazar, il a probablement pas été choisi pour son sujet de doctorat.
J'avoue.
Donc Christopher fait signe à Desmond, qui s'active immédiatement. Avec une facilité déconcertante, le descendant parvient à écarter les 2 portes de l'ascenseur, ouvrant du coup sur une cabine vide. À l'air descendu jusqu'en bas, c'est comme ça que ça se passe en cas de panne. Il y a un système qui fait que la cage redescend jusqu'en bas. Et du coup, vous pouvez entrer à l'intérieur. Il y a bien sûr une espèce de trappe sur le dessus.
Est-ce qu'il y a Hannibal Lecter au-dessus de la trappe ?
C'est nous, Hannibal Lecter.
Quand vous déplacez la plaque qui permet de bloquer l'accès, vous voyez juste l'obscurité au-dessus qui se prolonge dans les hauteurs.
Christopher va quand même se pencher vers Desmond et faire « Il garde pas les ascenseurs ? C'est louche. Faut pas qu'ils comprennent qu'on soit là. »
Bah, j'en sais rien. Si ça se trouve, ils sont plus focalisés sur l'autre bâtiment, mais si on veut monter, autant le faire vite.
Exact. Passez en premier, Desmond, je vous suis. Et ensuite, Hélène.
Desmond commence à monter. Il passe à l'intérieur de l'espèce de trappe. Puis, une fois qu'il est perché là-haut, il tend sa main pour aider quiconque en a besoin à grimper. Anna n'a pas du tout besoin. Là, compte tenu de son niveau en athlétisme, du fait de sa célérité, vous la voyez un petit peu bondir sur l'espèce de rambarde qui est à l'intérieur de l'ascenseur, puis se rattraper au rebord et monter sans problème. Par contre, les autres ont peut-être besoin d'aide.
Je pense pas pour moi, mais je peux aider aussi.
Non, je pense qu'Hélène aussi, ça va. Lizzie se fait tirer, par contre.
C'est vraiment le boulet du groupe.
Bah, dans cette situation, peut-être, ouais, effectivement. Après, dans d'autres, tu brilles.
Vous retrouvez tous sur le dessus de l'ascenseur et Desmond se dirige vers l'échelle qui est installée sur le mur. C'est une échelle assez rudimentaire avec des espèces de barres de métal qui sont plantées dans le béton de la cage. Et il commence à monter vers les hauteurs. Il fait très sombre, à part les lampes torches que vous avez, il n'y a aucune source de lumière.
Je pense que Hélène, elle va se mettre entre Anna et Lizzie.
Bah du coup, Anna va prendre la suite de Christopher.
Donc ça fait Desmond, Christopher, Anna, Hélène, Lizzie.
C'est ça.
Lizzie va me faire un petit jet. Elle va me lancer résolution plus auspex. Ça te fait 5D.
Ouais.
3 succès. Très bien. Vous commencez à monter l'échelle pour rejoindre les étages supérieurs. Vous en passez un, vous en passez deux. Vous entendez par écho provenant des portes d'ascenseurs successives que vous dépassez les coups de feu qui viennent des premiers étages. Donc la confrontation que vous avez évitée en passant par ce biais. Et alors que vous continuez de progresser vers les hauteurs et que vous êtes à peu près vers le 5e étage, Lizzie, en tournant sa tête d'un côté, a la vision d'une personne qui est au niveau d'une des portes d'ascenseur qui sont ouvertes, perchée dans l'obscurité et surplombant le vide de l'ascenseur, vous observant comme ça, silencieusement. Elle est certaine de l'avoir vue et ses sens lui indiquent clairement que cette personne, elle est masquée par un voile magique qui la rend invisible à l'esprit des autres.
Elle attrape le bras d'Hélène et elle lui murmure « Il y a quelqu'un d'invisible sur l'ascenseur à droite ou à gauche ?»
On va partir du principe que l'échelle sur laquelle vous montez, elle longe tout le mur gauche de l'ascenseur et que encore à votre gauche, du coup, c'est l'endroit où il y a les portes.
Ok. Donc je lui dis « Il y a quelqu'un d'invisible sur la porte de l'ascenseur 3 plus haut que nous. » Préviens Christopher.
Hélène va dire « Ok, je vais activer révérence. »
Ok. Révérence, du coup, pour attirer l'attention.
Voilà, c'est-à-dire que, du coup, techniquement, celui qui est en train de veiller, il va être automatiquement attiré par moi.
C'est ça, effectivement. Le fait d'activer la révérence, ça crée une sorte de magnétisme surnaturel.
Ouais, ben, je vais faire ça, parce que c'est plus simple que de commencer à se passer des messages à la file indienne. Comme ça, s'il attaque, il m'attaque moi. Et une fois arrivé à peu près à sa hauteur, je vais juste sauter comme un putain de tigre dans sa gueule.
Hélène va faire un jet de force plus athlétisme, ce qui lui fait 5 dés. Est-ce qu'elle fait un coup de sang ?
Oui. 4 succès.
Donc 4 succès sur ce jet pour bondir depuis l'échelle et atterrir sur l'espace que lui a indiqué Lydie juste avant. En plus, du coup, le coup de sang est réussi, donc la soif reste à 2. Alors qu'elle se projette dans la direction, Hélène rencontre de manière tout à fait inattendue, dans le sens où quelques instants plus tôt, elle n'avait rien en face d'elle. Elle rencontre du coup violemment le corps de quelqu'un qui se tenait là. Et les deux roulent à l'intérieur de l'étage. Elle a immédiatement le dessus physiquement parce qu'elle vient de le percuter. Mais maintenant, elle est capable de le voir. Il s'agit de quelqu'un qui porte un sweat jaune avec un bandana autour du front. Tout de suite, tu le vois crisser des dents alors que tu as pris le dessus sur lui. Qu'est-ce que tu fais ? Les autres, vous voyez du coup Hélène qui vient de bondir à l'intérieur. Vous voyez pas très bien ce qui se passe par la porte parce que du coup, sa lampe torche a un peu volé sur le côté et illumine un peu le couloir complètement sombre, mais pas sa cible directement. Et vous voyez juste une masse informe de corps à l'intérieur dans l'ombre.
Je vais essayer de lui planter mes griffes dans le cœur.
En fait, dès qu'on la voit sauter, je dis « il y a quelqu'un d'invisible ici ».
Du coup, Christopher va faire d'un signe à Desmond de quand même surveiller en hauteur et de se préparer des fois qu'il y ait du renfort. Et il va observer Hélène, voir si elle a besoin d'aide.
Anna va prendre la suite d'Hélène et va essayer de l'aider.
Très bien. Donc ça va être un jet de dextérité plus athlétisme pour elle. Donc ça lui fait 5 dés, auxquels on ajoute du coup ses dés de célérité. Ça lui fait donc 7 dés. Alors, donc, ça fait seulement 2 succès. 2 succès, c'est pas terrible.
Yes. Hein,
là, pour faire un bond, donc, à ta place, du coup, relance 3 dés si tu veux utiliser un point de volonté.
Je pense que je vais faire ça, ouais.
2 succès supplémentaires, ça fait 4 succès en tout. Sans problème, Anna bondit à son tour, se réceptionnant sur ses pieds avec grâce. Hélène, du coup, est en pleine bagarre au sol. C'est donc un jet de force plus bagarre, ce qui lui fait 5 dés.
3 succès.
3 succès face à 4, alors que Hélène pensait avoir eu le dessus grâce à son effet de surprise. Le descendant qui se trouve face à elle la repousse violemment sur le côté. Elle prend un coup au visage, ce qui fait un point de dégâts superficiels. Elle a senti peut-être une dent craquer ou son arcade a été marquée par le coup. Elle a un hématome sur le visage. En tout cas, elle a pris un coup assez violent. Que fait Anna ?
Bah, du coup, Anna va se précipiter sur le mec et essayer de le slasher.
Tu me fais un jet. Dextérité 4 plus mêlée 2 plus ta spécialité en couteau, ça te fait 7.
D'accord.
3 succès. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté ? Il t'en reste 4.
Il m'en reste 4. Bah allez, ça se refuse pas. 5 succès, c'est déjà mieux.
La personne s'étant focalisée sur Hélène pour se défendre contre elle, la cible est facile pour Anna qui plonge à son tour sur l'homme qui se trouve encore au sol. Le couteau pénètre profondément la chair et elle sent bien qu'il y a plusieurs de ses côtes qui ont été fracassées par le passage de la lame. La personne est toujours vive, ce qui semble indiquer très clairement qu'elle a un descendant face à elle. Dans la cage d'ascenseur, Desmond a poursuivi son ascension.
Christopher va encore une fois juste attendre, comme il a donné l'ordre à Desmond de sécuriser les hauteurs. Il va rester un petit peu en retrait d'un côté comme de l'autre, prêt à intervenir sur un des deux fronts si jamais il y a un des deux qui a besoin de renfort. Même si, a priori, bon... Il y a Hélène et Anna qui tabassent, donc il va peut-être plus surveiller les hauteurs, mais pour l'instant il reste neutre.
Oui, moi, ce que je fais, c'est que je pointe ma torche vers la bagarre. Du coup, est-ce que j'ai en ligne de vue la personne contre qui se bat Hélène ?
En montant juste un petit peu quelques barreaux de plus, t'as une vision sur lui.
Donc je peux lancer éteindre la vitae ?
Tout à fait.
Donc je le fais. Intelligence plus sorcellerie du sang contre vigueur plus sang-froid.
Vas-y. Ouf, je vais même pas m'embêter à lancer les dés parce que là tu viens de faire 8 succès critiques.
Pardon.
Lizzie, du coup, fait quelques gestes de la main à la manière d'un sorcier du sang, du coup. Et Anna peut voir l'homme qu'elle a juste en face d'elle. Ses pupilles, l'iris s'est largement dilaté et elle voit que il a les crocs tirés comme s'il souhaitait se nourrir. Là, très clairement, l'homme paraît affamé.
Du coup, je vais essayer de lui arracher la tête.
Hélène se jette brutalement sur lui pour essayer de le lacérer. Que fait Anna ?
Je vais quand même très rapidement jeter un œil dans le couloir, voir s'il y a d'autres personnes ou s'il était tout seul.
Il n'y a pas de fenêtre dans ce couloir, donc du coup, avec la panne d'électricité, il n'y a absolument aucune lumière.
Ok. En entendant que visiblement Hélène s'est redressée et qu'elle va charger, je vais essayer de maintenir le mec pour qu'elle puisse faire son office.
Tu veux dire que tu veux tenter un jet de force plus bagarre ?
Ouais, présenté comme ça, c'est moins sexy tout de suite.
Tu passes tout de suite de 7D à 2.
Non mais on va rester sur les coups de couteau, c'est très bien en fait. Je vais sortir le couteau planté dans les côtes et je vais essayer de le monter plus haut pour viser la tête avec.
Très bien. Vous allez faire vos deux jets simultanément. Moi, je vais lancer. Il va partager son pool de dés pour essayer de se défendre contre vous deux réunis.
Je vais relancer. J'ai claqué un truc de volonté.
Donc, Hélène lance 5 dés et obtient 2 succès malgré l'utilisation d'un point de volonté.
Moi, j'ai fait 6 succès.
Par contre, de son côté, l'adversaire, visiblement submergé par ses deux opposantes qui lui sont supérieures chacune individuellement, encaisse les coups de manière assez brutale. Vraiment, de ce que peuvent voir Lizzie et Christopher, il y a des coups assez violents qui sont assénés à l'adversaire. On voit les griffes d'Hélène qui tranchent à travers la chair et le couteau d'Anna surtout, qui parvient à lacérer une bonne partie de la cage thoracique de l'homme qui s'effondre au sol, complètement inerte, comme s'il était à nouveau mort. Mais ça ne doit pas vous tromper, vous savez très bien que la torpeur, cet état lorsqu'un vampire est entre la vie et la mort, donne toutes les apparences de la mort justement. C'est une sorte de cadavre qui se tient devant vous, mais il n'est pas réduit à l'état de cendre ou de chair putréfiée, comme c'est le cas quand un descendant meurt pour de bon, quand il rencontre la mort finale. Il est juste effondré au sol, la cage thoracique complètement ouverte, et le visage lacéré comme si une bête fauve l'avait attaqué.
Ce qui est un peu le cas, hein.
En voyant que le type visiblement est en torpeur et se défend plus, Anna se rend compte du fait que elle a un peu fait une boucherie. Et du coup, elle va s'écarter du cadavre en mode « Ah ouais, c'est moche !» Mais pas parce qu'elle trouve ça effrayant, parce que c'est pas beau esthétiquement, en fait. Ça m'attaque, il n'y a aucune beauté. C'est comme une peinture ratée, en fait.
Oui, la violence. Non seulement t'es mort, et en plus t'es moche.
Est-ce qu'Hélène le décapsule, du coup
Le décapsule, j'adore le...
Elle est barmaid, après tout. C'est sa spécialité.
Ouais, elle le décapsule bien, ouais.
Anna voit Hélène qui se penche, qui insère ses griffes au niveau de la jointure molle un peu du cou, et en un mouvement un peu brusque, la tête se sépare du corps, et celui-ci commence à pourrir à vue d'œil. Et rattrape les quelques jours qu'il a passé dans sa non-vie. Le cadavre ne se transforme pas en poussière, ça c'est ce qui arrive pour des descendants un peu plus vieux. Celui-ci n'ayant que quelques jours, il a tout l'air en fait d'un cadavre qui aurait été laissé à pourrir dehors pendant une semaine.
Je vais me détourner un peu de cette vision pas très esthétique, on va dire, et je vais plus m'intéresser à savoir si le combat qu'il y a eu a attiré des gens, s'il y a l'air d'avoir de l'agitation dans le couloir, bien que celui-ci soit obscur.
Vous entendez toujours des coups de feu qui viennent d'ailleurs dans le bâtiment, et a priori, votre échauffouré, qui s'est surtout soldé à coups de griffes et de couteaux, n'a pas attiré plus l'attention que ça.
Christopher va juste un tout petit peu détourner le regard quand il y aura le pourrissement et il dira « On a encore l'avantage de la surprise, on reprend. Desmond, en avant !»
Anna va quand même regarder le couteau dégoulinant de Vitae et va être tentée de le boire, mais elle va se rappeler que techniquement c'est du sang lié à un mec haut placé dans le sabbat et ne sachant pas trop ce qu'il pourrait advenir si elle commençait à boire le sang d'un mec relativement bas dans les générations. se résigne à ne pas en boire et par un effort de volonté se détourne du couteau et rejoint l'échelle pour poursuivre son ascension.
Hélène va prendre sa suite. Elle n'est pas forcément à l'aise avec le fait que le cadavre est pourri presque sous ses griffes.
Dans ses mains, hein, littéralement. Elle avait la tête dans les mains.
Ouais, littéralement. Donc, elle n'est pas à l'aise avec l'expérience, mais elle se dit intérieurement que c'était probablement ça ou se faire prendre par surprise, donc c'est mieux pour tout le monde. Donc, elle se rassure un petit peu de ce côté-là et elle va reprendre l'escalade.
Vous retrouvez la cage d'ascenseur et vous continuez votre ascension sur l'échelle murale. Dans le bâtiment, il y a toujours des rumeurs de coups de feu, même si il semble s'être un peu réduit dans les étages inférieurs. Alors que vous arrivez à peu près au niveau du 10e étage, vous entendez un cri qui semble venir de cet étage. Mais c'est pas un cri de colère ou un cri de combattant, c'est plus une voix enfantine, une voix d'enfant qui hurle de terreur.
Christopher, il va s'arrêter raide quand il va entendre ça.
Et ça vient d'où, du coup ?
Ça vient de l'autre côté de la porte d'ascenseur, celle-ci est fermée.
Christopher, il va pointer la porte et il va faire Desmond, ouverture, please.
Desmond va se retourner et regarder Christopher et il va lui dire assez sèchement « On y est presque, on n'a pas le temps pour ça. »
Ok, vous vous avancez, mais ouvrez la porte d'abord.
Il soupire, il redescend de quelques barres pour revenir au niveau de la porte. Il va passer de l'autre côté pour pouvoir tirer aisément dessus. La porte cède sans problème, les deux coulissant simultanément et ouvrant sur un couloir où règne là aussi l'obscurité.
Bah, Christopher, il va s'y engager et faire signe aux autres de continuer. Continuez l'ascension, moi je vais voir.
Non, moi je suis Christopher.
Ah non, mais clairement, on va venir t'aider, hein. Je pense qu'à aucun moment de l'existence, on va écouter Christopher et on va aller avec lui.
Alors, Christopher, il t'écoutait déjà pas quand tu disais des trucs pourris. Alors, quand...
Quand c'est pour sauver un gamin, laisse tomber, quoi.
Christopher n'a aucune autorité.
Alors, est-ce que Christopher essaye d'être particulièrement persuasif auprès de ses camarades pour les repousser
Non, il a juste dit « vous continuez avec Desmond ». Lui s'est engagé en mode « je regarde pas ce qu'ils font, moi je vais au plus vite sauver un enfant innocent ».
Anna commencera par suivre Desmond et en fait elle verra que Hélène et Lydie en ont rien à carrer de ce que dit Christopher. Du coup elle va redescendre et suivre les deux autres.
C'est dans les préceptes de la coterie de toute façon, ne faites pas ce que dit Christopher. Du coup Christopher s'engage le premier, rapidement suivi par les autres qui le rejoignent. Comme les autres couloirs que vous avez pu voir jusque-là, celui-ci est plongé également dans le noir, et seule vos torches y apportent une certaine clarté. Vous entendez toujours, au fond, tout droit, des pleurs et des cris d'enfants. Et quand vous portez votre lumière dans cette direction, vous pouvez voir deux enfants blottis l'un contre l'autre au sol, dans l'encadrement d'une porte, à peu près une dizaine de mètres. Ils ont l'air particulièrement terrifiés. Leurs visages sont couverts de larmes et leurs tenues sont couvertes de taches de sang. Et alors que vous levez le regard un peu plus loin, encore plus loin que les deux enfants, vous voyez deux orbes rouges vifs qui percent à travers l'obscurité.
Oula !
En pointant la torche dans cette direction, vous identifiez immédiatement un membre des Latin Kings. Seulement, sa tenue est passablement déchirée, comme s'il avait été lourdement blessé. Ses yeux irradient une lueur sanglante très intense. Il se tient dans une position un peu bestiale et marche implacablement dans votre direction. Maintenant qu'il vous a repéré. Ses crocs ont poussé de manière exagérée et dépassent de ses lèvres, et vous pouvez également remarquer que ses avant-bras semblent incroyablement velus, comme le seraient ceux d'un ours. Ses doigts sont prolongés par de longues griffes acérées.
Ok, bon, bah Christopher, il va lever son fusil, le mettre à l'épaule, s'avancer sans aucune hésitation, et je pense qu'il a assez l'habitude de ce genre d'armes pour juger à quelle distance il va faire le plus de ravages, surtout avec des cartouches incendiaires.
L'avantage des cartouches incendiaires, c'est qu'elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup toucher la cible pour faire leurs dégâts. Donc, c'est pas très difficile de blesser quelqu'un avec. Par contre, elles ont quand même une portée moindre que des cartouches normales.
Logique, c'est pour ça qu'il s'avance et il se prépare à tirer dès qu'il juge qu'il va faire mal.
Très bien. Dans ce cas, tu vas me faire un jet de sang-froid plus arme à feu, ce qui te fait 6 dés. Est-ce que tu souhaites faire un coup de sang ?
Oui. Vu le truc en face, vaut mieux pas que je loupe.
Donc ça te fait 8 dés. Alors ça fait 4 succès avec la soif qui augmente. Est-ce que tu veux utiliser un de tes points de volonté pour relancer 3D?
Oui.
6 succès.
Ça va flamber, chérie.
Très bien, donc lui, il a fait 3 succès. Donc 6 succès contre 3, tu réussis. Ton arme est à plus 3 de dégâts, donc tu fais une marge de 6. Tu alignes ton arme sur lui alors qu'il commence à se ruer dans ta direction. Vraiment avec une manière de se déplacer qui est très bestiale. Et tu en viens même à te demander si cette personne a toute sa tête, tellement elle se comporte comme une bête. Et alors qu'il arrive dans ta portée effective, tu alignes ton viseur et tu tires. La cartouche percute et la balle incendiaire part, heurtant du coup ta cible de plein fouet. Il y a comme une gerbe de flammes qui accompagne l'impact. Tu vois immédiatement que le descendant qui se trouve face à toi commence à prendre feu, mais vraiment comme un fétu de paille. La balle en elle-même a arraché des lambeaux de chair qui ont giclé un petit peu partout, mais ajouté à ça le phosphore qui est contenu à l'intérieur qui a pris feu immédiatement, il y a une torche humaine en face de vous.
Du coup, même si c'est pas agréable à regarder, surtout pour un vampire, le feu, voilà tout ça. Christopher va déjà s'arrêter, hein, mais il va continuer à tenir en joue le truc des fois qu'il soit plus résistant que prévu.
Est-ce que vous faites quelque chose, les autres? Vous avez un mouvement de recul, hein, quand même, instinctivement, voir autant de feu d'un coup. La gerbe de flammes, c'est pas agréable à voir.
Hélène va dire à Anna et Lydie, essayez d'aller rassurer les gamins.
Du coup, Lydie va se diriger vers les enfants.
Très bien. Lydie se dirige vers les enfants. Est-ce qu'Anna fait de même?
Ouais, je vais essayer de sécuriser la zone, voir s'il y a d'autres menaces.
Tu utilises ta torche un petit peu du coup pour sonder les profondeurs du couloir. T'as l'air de voir personne. Il y a l'air cependant d'y avoir à certains endroits certaines portes qui ont été enfoncées. Et on peut se douter que doit y avoir certains appartements qui ont été pris d'assaut entre guillemets par l'un de ses descendants, peut-être celui-là d'ailleurs. Alors que Anna et Lydie font un mouvement en direction des enfants, la torche humaine continue sa progression en direction de Christopher.
Christopher, il va remettre une cartouche, écoute. Hein.
Alors, Christopher, il voit vraiment une torche humaine qui va foncer sur lui. Pour réussir, du coup, à garder son calme, il va devoir faire un jet de volonté.
Logique.
Il te reste 5 points de volonté et tu as 7 en humanité, ce qui te fait plus 2. Tu as donc 7 dés à lancer, sans dés de soif, qui vont servir à voir si tu parviens à maintenir le contrôle sur ta bête. 3 succès. C'est suffisant. Christopher parvient tout juste à garder le contrôle sur sa bête qui est particulièrement terrorisée par cette boule de flamme qui se dirige à toute vitesse vers elle.
Il serre les dents, il dit pas maintenant.
Et Christopher aligne un second tir qui fait s'écrouler le descendant au sol, qui commence à crépiter et à se consumer de plus en plus vite. En quelques secondes, il ne reste plus que quelques flammes au sol sur la moquette qui est en train de brûler. Par contre, le corps a été réduit presque entièrement à l'état de cendre, ce qui, tu le sais, pour avoir vu malheureusement de nombreuses situations d'incendie, criminel ou pas, n'est pas du tout naturel. Normalement, il reste quand même des traces un peu plus marquées des cadavres.
Des restes, ouais. Mmh.
Là, c'est vraiment comme si le corps s'était consumé en quelques instants à partir du moment où les flammes ont pris le dessus sur lui.
Mmh. Christopher va du coup continuer à serrer les dents. Il relâche pas son attention parce que t'as précisé qu'il y avait des tas de portes ouvertes, voire défoncées. Donc il continue de maintenir en joue le couloir des fois qu'un autre truc décide de sortir.
De leur côté, Anna et Lydie arrivent au niveau des deux enfants. Ils ont l'air d'avoir entre 6 et 9 ans, je dirais. C'est deux garçons. Leur pyjama est taché de sang. Et ils ont l'air complètement terrorisés, ils se recroquevillent en boule.
Je m'approche d'eux et je leur dis « Vous inquiétez pas, ça va aller. Comment vous vous appelez? C'est quoi votre prénom? Est-ce que vous êtes blessé? Si vous êtes blessé, montrez-moi que je puisse vous aider, vous soigner. Vous inquiétez pas, personne va vous faire de mal. »
Anna est un petit peu dans la même dynamique, j'imagine.
Ouais, bah elle essaye d'avoir un sourire rassurant. Elle dit rien, elle reste juste à côté de Lydie et essaye d'appuyer son propos.
Est-ce que tu utilises présence pour essayer de rassurer les enfants
Bah ça dépend, si je constate que Lydie a du mal.
Ils ont l'air particulièrement terrorisés.
Ouais, bah si je peux utiliser présence pour les calmer un peu, effectivement, c'est une bonne idée, ouais. Bonne remarque.
Anna, ayant 3 en charisme et 3 en empathie, ça lui fait 6 dés de base. En utilisant présence, notamment la révérence, ça lui fait immédiatement 3 dés supplémentaires, ce qui fait 9. Et comme Lizzie possède également empathie, elle peut faire travail d'équipe. Donc ça fait 10 dés pour essayer de rassurer les deux enfants. 6 succès de la part d'Anna et Lizzie, c'est très bien. Vous parvenez à gagner un peu leur confiance et à les calmer. Je dirais pas qu'ils sèchent leurs larmes parce qu'ils sont toujours quand même dans un état de stupeur assez important. Par contre, ils arrivent à se redresser un petit peu, à prendre conscience que vous n'êtes pas hostile et se rassurent, vous disent leur nom. Il y en a un qui s'appelle Ray et l'autre qui s'appelle Julius. Et ils vous expliquent qu'un monstre a attaqué leurs parents et qu'ils sont partis en courant pour se cacher.
Est-ce qu'ils ont l'air blessés déjà ? Tu disais qu'il y avait du sang sur eux.
Ils n'ont pas l'air d'être blessés, le sang sur leur tenue n'a pas l'air d'être le leur.
Christopher va du coup demander haute voix. Les enfants, il y avait d'autres monstres ?
Non, on a vu que celui-là, on a vu que ce monstre-là.
Vous avez couru, mais vous habitez où normalement ?
Il y a le plus grand des deux qui va pointer du doigt dans la direction de là où venait le monstre, entre guillemets, du coup le descendant des Latin Kings. Dans cette direction, vous voyez qu'effectivement, il y a une porte qui a été défoncée.
Et vos parents, ils sont par là-bas, elle va pointer du doigt la porte défoncée.
Oui, ils sont blessés, je crois.
Bah, du coup, elle va s'y rendre et éviter que les enfants voient ça, quoi.
Par contre, si tu t'y rends, Christopher, il va te faire signe de rester derrière lui, il check d'abord.
Ok.
Christopher va commencer à checker les appartements aux portes défoncées, façon purement lieutenant de police, là. Je pense là, il est dans son élément.
Lizzie, elle reste avec les enfants, du coup, elle dit « Vous inquiétez pas, on va aller voir ce qui se passe ».
Quand Christopher pénètre dans l'appartement, il remarque immédiatement du coup que la porte a été défoncée de manière très brutale et que les meubles dans l'entrée ont été bousculés. Il y a une espèce de meuble à chaussures qui a été renversé au sol. Et il voit un peu plus clair ici parce que du coup, il y a les fenêtres qui donnent sur l'extérieur du bâtiment. Et il arrive sur une scène particulièrement atroce.
C'est bien ce qu'il pensait, oui.
Dans le salon, il y a 2 cadavres. Mmh. 2 personnes à la gorge vraiment déchiquetée, comme si on s'était nourri sur eux de manière particulièrement brutale. Très clairement, ces 2 personnes sont mortes.
Du coup, il va se tourner vers la sortie. Il va pas spécialement prêter attention à Anna et toutes les autres portes défoncées. Il va juste checker s'il n'y a pas un monstre en maraude.
Ou un humain vivant, j'imagine.
Ou un humain vivant, effectivement. Mais d'abord, sa priorité, c'est sécuriser.
Christopher fait quelques autres appartements rapidement et à chaque fois qu'il passe, il découvre un spectacle horrible, un ou plusieurs cadavres à chaque fois.
Du coup, est-ce que j'agis et je parle sur ce que Christopher va dire ou est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant ?
Du coup, je vais me référer à l'expression qu'il aura adoptée.
Il n'a pas d'expression là, il est extrêmement concentré, il cherche les menaces. D'abord, on sécurise, on ne peut rien faire tant qu'on n'est pas sûr qu'on ne va pas subir une autre attaque.
Du coup, si je te vois ressortir, techniquement, je m'en déduis qu'il n'y a pas de menace à l'endroit où t'étais, quoi.
C'est ça.
Bah, du coup, je jette un œil. Je regarde s'il y a effectivement les cadavres des parents.
Ouais, tu découvres toi aussi les cadavres des parents.
Ok. Je ressors et... et je dis rien. Je sais pas quoi dire, en fait.
Bah, moi, du coup, je suis restée avec les enfants à essayer de peut-être les faire un petit peu parler de leur vie pour qu'ils se sentent...
Hélène, elle reste près de l'ascenseur. Pour pas faire peur aux gamins, elle est pas indiquée pour la situation.
Bah, du coup, Christopher va revenir, il va secouer la tête pour montrer clairement que les parents, hein, non. Il va regarder les enfants, il va faire « Anna, tu serais capable de les sortir de l'immeuble ?»
Ça risque d'être compliqué. Je te rappelle que nous avons dépassé l'endroit de la fusillade et je vois mal comment je pourrais faire descendre les enfants dans la cage d'ascenseur. Il faudrait les faire descendre par l'escalier et les exposer au danger.
Va falloir pourtant.
Non, il faut les mettre dans un des appartements, dans une chambre et...
Lizzie, est-ce que ça te dirait de rester avec eux et de les protéger ?
Le problème, c'est qu'on peut pas à la fois sécuriser ici et aller crapahuter chercher l'autre glandouilleuse qu'on cherche là.
Les gamins, s'ils se cachent dans un placard, personne les verra. Par contre, faut qu'on zouille.
Ok, Anna, Lizzie, vous virez les cadavres des parents, je leur fais un brouillage mémoriel et ensuite je leur intime de rester là. Allez, on se dépêche.
Ils sont plutôt dociles, vu que vous vous êtes montré très rassurant avec eux et qu'ils vous identifient plutôt comme des gentils, du coup. Après quelques minutes à mettre de côté les cadavres des parents, vous les amenez dans leur chambre et Christopher utilise son pouvoir de compulsion sur eux en les regardant droit dans les yeux et leur intime un ordre qu'ils vont suivre. Quel ordre simple leur donnes-tu ?
Restez cachés jusqu'à l'arrivée de la police. Qu'ils aient pas la tentation de sortir tant que c'est pas calme, quoi.
Très bien.
Je fais aussi du coup un petit brouillage mémoriel afin d'enlever un peu leur traumatisme.
Brouillage mémoriel, tu peux l'utiliser peut-être pour effacer les quelques dernières minutes, donc votre rencontre avec eux, mais tu pourrais pas revenir aussi loin que le meurtre de leurs parents. Il te faudrait le pouvoir altération mémorielle qui demande un niveau un peu plus haut en domination.
Oui, donc ouais, je nous vire de leur mémoire pour pas qu'on soit décrit.
Très bien, donc tu utilises brouillage mémoriel après leur avoir intimé de garder leur cachette. Tu les vois qui se planquent sous leur lit, vous les laissez derrière vous et vous rejoignez la cage d'ascenseur.